Yofi, je pense que cette fois, on est bon. Yofi. Tov. Alors, Boker Tov, les Koulam. Effectivement, j'ai un rôle difficile à remplir aujourd'hui parce que les autres rabbanim vont parler de choses joyeuses, de choses qui nous donnent le sourire. Et bien moi, j'ai reçu la lourde tâche de parler d'un sujet plus difficile, plus lourd, mais pas moins fondamental et pas moins historique. Nous allons parler ensemble de Yom HaZikaron. Alors effectivement, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, de caractère halakhique au jour de Yom HaZikaron. C'est-à-dire que le jour de Yom HaZikaron, où on se rappelle de ceux qui sont tombés, en vérité, ça peut être 365 jours de l'année, où on peut, chacun en fonction de ses proches, eh bien, aller évidemment se recueillir et apprendre d'eux. Le fait que le peuple d'Israël ait déterminé que Yom HaAtzmaout et Yom HaZikaron allaient être rattachés et qu'on passerait de Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaout, c'est pour bien cristalliser dans le conscient et l'inconscient de chacun d'entre nous, eh bien, que la dimension de joie intense et profonde de Yom HaAtzmaout, tout ce que le Rav Cherki vient de nous expliquer, la possibilité de enfin, eh bien, remplir notre rôle dans le monde, tout ceci a été possible grâce à des personnalités extraordinaires, grâce à des Monsieur Tout le Monde qui nous ont appris comment être tout le monde. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, j'aimerais vous parler au travers de personnalités, eh bien, de ce qu'est la particularité des soldats d'Israël. Le cours s'appelle « Mais qui sont nos soldats ?» Qui sont nos soldats ? Au travers de quelques histoires, j'aimerais qu'on mette l'accent sur non pas quelle a été leur vie, mais quel a été leur message pour nous aujourd'hui. Je vais essayer de faire en sorte que ce cours ne soit pas un cours rassratique par excellence, même si on sera obligé d'évoquer ceux qui sont tombés. Le but n'est pas de se rappeler du passé, mais bel et bien, je le dis souvent, de construire l'avenir. Il y a une grande différence, et ça, c'est fondamental. C'est comme ça que j'aimerais vraiment ouvrir le cours. Il y a une grande différence dans le regard que j'ai du jour de la mort de quelqu'un. Comment vais-je appeler ce moment où je me rattache à la personnalité de celui qui est tombé ? Il y a une appellation qui est l'appellation ashkénaze, elle est parvée. L'appellation ashkénaze, elle est passe-partout. On dit en yiddish, Yahrzeit. Yahrzeit veut dire tout simplement le jour de l'année. C'est le jour symbolique de l'année. Bon, ben voilà, après, t'en fais ce que tu veux. Donc, ça, c'est une appellation parvée. Et après, vous avez deux appellations qu'on va retrouver beaucoup plus dans le monde séfarade, mais qui aujourd'hui, évidemment, Baruch HaShem, ont traversé les différentes cultures. On parle soit d'une askara, qui vient du terme liskor, yiskor, ou alors on va parler d'une iloula. Très souvent, on a tendance à penser que askara, c'est pour nos proches, et iloula, c'est pour les grands rabbanim. Eh bien, je m'inscris en faux, Rabotai. On peut très bien parler de askara pour les tzadikim, et on peut très bien parler de iloula pour nos proches. Quelle est la différence entre askara et iloula ? Eh bien, askara, comme je l'ai dit, vient du terme liskor, se souvenir. Et donc, la askara vient porter le spot, la lumière, sur le passé. Je me souviens de qui il était, je me souviens de ce qu'il a fait, je me souviens de comment il est tombé. La iloula a une connotation directement tournée non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Puisque la Hiloula est l'Halel, l'Alot. Vous pouvez mettre dans cette appellation ces deux dimensions, le Halel, comme le Rav Cherki nous l'a expliqué, et également l'Alot. C'est-à-dire que suite à leurs enseignements, qui en fait n'étaient pas ce qu'ils ont écrit, dit, mais c'est leur vie qui était un enseignement, eh bien, nous pouvons aujourd'hui grandir et monter encore plus. C'est donc voilà ce qu'on va faire. Nous allons, au travers de quelques histoires, essayer eh bien, d'en percer les secrets, le message des Chayalei Israël, le message de ces gens qui sont Monsieur Tout-le-Monde et qui ont mis en place la possibilité d'exprimer notre identité. Alors, comme je dis que je vais parler de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, il y a des noms que je n'évoquerai pas. Je ne parlerai pas de personnages célèbres. Je ne parlerai pas de Yoni Netanyahou. D'abord parce que tout le monde connaît son histoire et évidemment qu'on aurait énormément de choses à apprendre sur l'opération Entebbe et la route de Kol Israël à Revim Zebazé, bien évidemment. Mais dans la mesure où justement, je pense que la grande majorité d'entre nous, eh bien, nous connaissons l'histoire de Yoni Netanyahou et si on ne la connaît pas, eh bien, en deux clics, il y a des films qui ont été réalisés sur l'opération Entebbe. Donc, je pense que, justement, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur des gens que personne ne connaît, qui, pour la majorité, eh bien, ne sont que des tombes dans le mont Herzl, mais qui, en fait, sont des pierres angulaires pour notre identité. Alors, allons-y. Je vais essayer de vous faire venir également à chaque fois des petites photos et j'aimerais qu'on commence directement. Alors, le premier message que j'aimerais prendre aujourd'hui, alors c'est la seule de ma liste aujourd'hui qui est un petit peu connue, c'est volontaire, elle est un petit peu connue, pas autant que Yoni Netanyahou, mais c'est volontaire, je ne vais pas faire de biographie. Ceux qui voudront après aller faire des recherches plus poussées en termes de biographie, libre à vous. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi, le message. La première personnalité que j'aimerais ici vous faire parvenir, voilà, est-ce que vous voyez? Oui, on voit? Dites-moi si on voit.
Avec le, oui, on voit le dossier, on ne voit pas l'image.
Ah, on ne voit pas l'image. Voilà, bah, vous me direz alors. Alors, attends, voir. Yofi. Voilà. La première image donc ici que je voudrais vous faire parvenir, c'est cette image de Chana Senech. Chana Senech, alors c'est la plus connue de la liste que je vais vous faire parvenir. Chana Senech, eh bien, c'est une grande madame qui meurt au combat avant la création de l'État d'Israël. Quand on parle de Yom HaZikaron, de Chayalei Israël qui sont tombés, eh bien, ça ne commencera pas avec la guerre d'indépendance, mais ça commencera déjà avant, avec les Martarot, avec le Hetzel, le Lehi, la Hagana, avec tous ces gens qui se sont battus, et également à l'extérieur eh bien, des frontières d'Israël. Chana Senech grandit à Budapest. Et en 1939, elle monte en Israël. Baruch HaShem, c'est ce qui lui permettra de ne pas passer la Shoah, du moins a priori. Elle monte en 1939 en Israël, mais alors que la Deuxième Guerre mondiale bat son plein régime, en Israël, nous sommes toujours sous mandat britannique, et donc à ce moment-là, eh bien, les Anglais sont en guerre évidemment contre les nazis, et même si pour la écrasante majorité des Juifs en Israël, eh bien, les sentiments sont extrêmement virulemment opposés au mandat britannique qui n'a fait que nous mettre des bâtons dans les roues depuis la déclaration Balfour, eh bien, c'est un commun accord pratiquement pour tout le monde que, dans tous les cas, on va arrêter les hostilités avec les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons un ennemi commun, les nazis, et donc, eh bien, non seulement on arrête les hostilités, mais nombre de Juifs vont même s'engager volontairement dans l'armée britannique pour aider au combat. Chana Senech fait partie de ce groupe de soldats d'Israël qui vont s'enrôler volontairement dans les brigades juives de l'armée britannique et vont être parachutés en Europe. D'ailleurs, au Mont Herzl, eh bien, le groupe de Hana Senesh, les tombes de souvenirs, les monuments de souvenirs plus que des tombes, eh bien, sont disposés comme une formation de parachutistes. Ils sont parachutés en Europe, Hana sera parachuté en Hongrie. Le but est de faire la liaison avec les différents juifs qu'on pourrait retrouver, les dirigeants communautaires. Lorsqu'elle essaiera de passer la frontière hongroise, elle va se faire attraper par l'armée allemande. Elle sera évidemment torturée et pour lui soutirer toutes les informations possibles et imaginables et sera mise à mort. Hana Senesh n'était pas obligée de s'enrôler dans les brigades britanniques, n'était pas obligée de se porter volontaire pour cette mission en Europe. N'oubliez pas qu'on aurait très bien pu dire, ben écoutez, on attend, si jamais les nazis arrivent en Israël, on va se battre ici. Mais Hana nous ouvre le premier message de notre étude. Pour qu'il y ait la possibilité de réaliser cet espoir et ce rêve qui s'appelle l'État d'Israël, elle est dedans, elle est en plein dedans. Elle est à Bat Yam, elle est dans un kibboutz agricole, elle apprend à faire fleurir la terre d'Israël. Mais elle comprend que cette terre d'Israël, ce pays d'Israël retrouvé, eh bien, ne pourra se réaliser que si on comprend qu'il est le pays de tout le peuple d'Israël, y compris mes frères qui sont encore en Hongrie. Et donc, elle part là-bas. Elle part là-bas parce que Hana nous apprend « Kol Israël arevim zebazé », c'est le tnaï, c'est la condition pour que la réalisation de l'État d'Israël puisse voir le jour. Alors, ça c'est une première histoire. Et puis comme vous le savez, finalement, eh bien, Baruch Hashem, le 29 novembre 1947, eh bien, les nations du monde vont tout simplement voter la création d'un État juif. Et comme vous le savez, eh bien, le 30 novembre, le lendemain, la guerre éclate. La guerre éclate et c'est la guerre d'indépendance. Les amis, à partir de maintenant, mon histoire ne sera pas chronologique. Mon histoire sera thématique. C'est pour ça que les différents personnages que je vais évoquer, ne cherchez pas, ce n'est pas un ordre chronologique, c'est volontaire. S'il y a des gens qui sont capables ici de lire l'hébreu, un tout petit peu, eh bien, je vous demanderai, ici, on voit que le dossier juste, ça arrive, t'inquiète pas. Je demanderai ici de m'aider à lire le nom du soldat qui est ici tombé.
Yuval Harel.
Je pense que tout le monde l'a vu. Volontairement, je l'enlève pour vous montrer une autre photographie. Hop là. Technologie. Et voilà. Et ceux qui arrivent à lire, lisez-moi aussi cette tombe.
Yuval Harel.
Les amis, voilà cette histoire absolument incroyable. Absolument incroyable. Nous sommes en 1982. Et à ce moment-là, commence la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Cette guerre du Liban, eh bien, commence au mois de juin. Et dès le début de la guerre, les nombres de soldats tombés au combat, dès le premier jour, commencent à arriver. Et ce sont des nombres qui font froid dans le dos. Tous les jours, aux informations, à la fin de la journée, on donne les noms des soldats qui sont tombés. Ça fait à peine 2 jours que la guerre a commencé. Il y a un petit garçon, il a 17 ans, il s'appelle Amos, il vient de Jérusalem, il habite à Talpiot, et il fait partie de la Shomer HaTzair. Et ce petit garçon, Amos, il entend à la radio quelque chose qui n'arrive pas à accepter. Il entend que l'un des soldats qui sont tombés aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 1982, il entend Yuval Harel de Jérusalem. Il dit, c'est impossible. Yuval Harel, c'est mon madrigue. C'est mon madrigue. Je sais qu'il est parti à la guerre, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il est impossible pour moi d'accepter Yuval, mon mentor, mon ami, mon... ce que vous voulez, soit tombé. Je n'y crois pas. Il court chez les parents de Yuval. Les parents de Yuval, Yosef et Chaya, ils courent chez eux en leur disant « mais ce n'est pas possible, dites-moi que ce n'est pas vrai ». Lorsqu'il arrive chez Yosef et Chaya, il leur dit « mais vous avez entendu, ils ont entendu et on ne sait pas ce qui se passe, c'est impossible ». Voilà Yuval Harel. Les parents viennent de recevoir le coup de téléphone de l'armée. Yuval est tombé. Une heure s'écoule dans le drame le plus total pour la famille. C'est impossible, Yuval est tombé. Et au bout d'une heure, ils reçoivent un second coup de téléphone. En disant, Chaya, Yosef, vous êtes les parents de Yuval Harel de Jérusalem ? Il dit oui. Et là, je ne sais pas qui était au bout du fil, un représentant de l'armée leur dit, oups, autant pour nous, on s'est trompé, il n'est pas mort votre fils. Comment ? Non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Autant pour nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre Yuval Harel de Jérusalem et c'est lui qui est tombé. Cet autre Yuval Harel de Jérusalem qui est tombé, ce n'est pas votre fils, c'est le fils de Chaya, de Myriam de Yechezkel. De Myriam et Yechezkel, c'est lui, le Yuval Harel, qui est tombé. Donc, ce n'est pas votre fils. Est-ce que vous pouvez imaginer le yo-yo émotionnel terrible que sont en train de vivre Chaya et Yosef? Ce n'est pas finalement leur fils qui est tombé, c'est un autre Yuval Harel. Mais j'espère que vous comprenez de quoi on parle. On parle de deux soldats qui ont le même prénom, le même nom de famille, les deux sont de Jérusalem. L'un habite à Talpiot, l'autre habite à Katamonim. Ils sont à peut-être 500 mètres d'écart l'un de l'autre. Ils ne se connaissaient pas. Et ils apprennent que Yuval Harel ici, fils de Myriam et Yechezkel, c'est lui qui est tombé. Ça prend du temps de ramener le corps depuis le Liban. Et finalement, eh bien, l'enterrement aura lieu à Herzl, non pas le 8, le jour de la chute de Yuval, mais le 10. Et lorsqu'on revient de l'enterrement de Yuval Harel, évidemment, Chaya et Yosef sont allés à l'enterrement parce que désormais, ils se sentent complètement attachés à cette famille. Ils rentrent chez eux et ils reçoivent un coup de téléphone de l'armée qui leur dit « Vous êtes les parents de Yuval Harel ?» Ils disent « Oui, Yuval est tombé. » Et là, Chaya et Yosef disent « Mais non, mais enfin, c'est, oui, mais non, mais en fait, ce n'est pas le nôtre. On sait, mais en fait, c'est parce qu'il y a un autre qui est le fils de Myriam et Yechezkel. C'est lui qui est tombé, ce n'est pas nous. » Et là, ils leur disent « Non, mais on sait, mais là, cette fois, c'est le vôtre aussi. » Yuval et Yuval vont mourir à 2 jours d'écart. Ils ne se connaissent pas, ils habitent à côté. Ils tomberont pratiquement ensemble. Les parents, Chaya et Yosef, et Myriam et Yechezkel, vont prendre une décision. Que Yuval Harel et Yuval Harel, plus que n'importe qui, même s'ils ne se connaissaient pas, ont expliqué à tout le peuple juif, qu'est-ce que ça voulait dire, Ahva, cette fraternité qu'il y a au sein de l'armée d'Israël. Les parents vont demander que Yuval et Yuval soient enterrés côte à côte au mont Herzl. comme malheureusement il y a eu d'autres membres de l'unité qui sont tombés entre-temps, ils sont enterrés à deux tombes d'écart l'un de l'autre. Yuval Harel et Yuval Harel. Ces deux frères qui ne se connaissaient pas, mais qui nous ont appris qu'est-ce que ça voulait dire la notion de Ahva au sein du peuple d'Israël, la notion de fraternité. Maintenant qu'on a compris la notion de responsabilité collective avec Hana, la notion de fraternité avec Yuval et Yuval, nous emmener en arrière dans l'histoire en 1956, lors de ce qu'on appelle la campagne du Sinaï. La campagne du Sinaï, les amis, de quoi parle-t-on ? La campagne du Sinaï, c'est une guerre qui est très compliquée parce que ça ne bouge pas vraiment, mais ça bouge, mais ça ne bouge pas, mais ça bouge. Et pendant la campagne du Sinaï, il y a un homme qui a tout juste 18 ans qui doit maintenant s'enrôler dans l'armée. Le problème, c'est que l'armée ne veut pas de lui. L'armée ne veut pas de lui pour une raison très simple, il s'appelle Yehuda Kendror, mais ce n'est pas son nom officiel. La famille a changé de nom en l'honneur du grand frère de Yehuda. La famille à la base s'appelle Mizrahi. Et le grand frère de Yehuda s'appelle Eliyahu. Eliyahu Mizrahi est un des combattants qui va tomber dans le combat du Castel en 1947-48. Au moment où Eliyahu tombe, et il a pour lui le dror, l'oiseau, c'était son symbole, c'était son animal fétiche, et donc la famille, en l'honneur de ce fils tombé, ils ont décidé de changer le nom de Mizrahi en Kendror pour faire honneur à leur fils. Donc Eliyahu est tombé pendant les combats du Castel. Mais lorsque Eliyahu tombe, nous sommes en 1947-48. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous sommes à peine 8 ans avant la campagne du Sinaï. Alors que Eliyahu Mizrahi meurt, il est âgé de 19 ans. Eh bien, son petit frère Yehuda n'a à peine que 10 ans. Il voit son grand frère comme étant son héros, comme étant le soldat d'Israël par excellence. Il grandira sans son frère, mais avec l'amour et la dougma, l'exemple d'un héros. Lorsqu'il arrive à ses 18 ans, il doit rentrer à l'armée et l'armée lui dit « Tu ne seras pas soldat. » Pourquoi ? Eh bien parce que tu es le dernier fils d'une famille qui a déjà perdu un fils. Et d'après les lois de l'armée, tu ne peux pas être enrôlé. Et là, la guerre commence. Parce que pour Yehuda, il est hors de question qu'il ne suive pas les traces de son grand frère. Et un combat juridique, procéduriel, et des signatures des parents qui le laissent faire. Finalement, l'armée accepte d'enrôler Yehuda, mais à une condition. Tu seras soldat, mais tu ne seras pas combattant. Il ne faut pas pousser. Yehuda accepte. Il est enrôlé dans l'armée et va devenir officiellement Nahag. Il est chauffeur. Il est chauffeur et très très vite, il va être rattaché à l'un des commandants de l'unité des parachutistes. Il est Nahag officiel des Mefakdim. Et nous arrivons dans la campagne du Sinaï. Il suit donc son unité, il est chauffeur. La guerre éclate, la campagne commence et l'unité de Yehuda arrive dans le Sinaï devant une mission très compliquée. La mission est très simple, mais très compliquée. Il y a une route qui passe entre deux énormes collines dans le désert du Sinaï. C'est la seule route qui permet de débloquer le chemin vers le canal de Suez. Le problème, c'est que sur ces deux collines, nous savons qu'elles sont truffées d'Égyptiens qui n'attendent qu'une chose, c'est que les soldats israéliens rentrent dans ce chemin entre les deux collines pour nous tirer dessus et c'est terminé. Que faire ? Il faut absolument prendre ce chemin. Il faut dégager la route. À ce moment-là, comme à l'accoutumée de Tzahal, eh bien, tous les mefakdim se portent volontaires pour ce qui va être une mission suicide. La mission est simple. Prendre une jeep, foncer dans le chemin pour que les Égyptiens sortent de leur cachette et tirent dans tous les sens sur la jeep pour que nous, on voit d'où viennent les tirs pour qu'on puisse ensuite aller conquérir les deux collines et libérer le chemin. Mais celui qui sera dans la jeep, tous les mefakdim se portent volontaires. Mais le commandant des Tzantranim dit « Mais vous n'avez pas compris, on est au début du combat. Je ne peux pas perdre mes mefakdim maintenant. Je vais avoir besoin de vous dans 5 minutes. » Et à ce moment-là, un homme pousse l'assemblée. C'est Yehuda. Et Yehuda vient voir et dit « Mais enfin, je n'ai pas compris. La mission, c'est quoi? Vous avez besoin d'un chauffeur. C'est ça la mission. Il y a besoin d'un mec qui va conduire une jeep. Je suis chauffeur. C'est moi ça. C'est mon identité, c'est ma mission. S'il y a quelqu'un qui doit conduire, c'est moi. » Et Yehuda prend la jeep et il va partir dans ce chemin qu'il va faire en zigzag, en tournant dans tous les sens. Et comme c'était prévu, les Égyptiens sortent de leur cachette, tirent dans tous les sens. La jeep sera trouée de 27 balles. Yehuda, lui, prendra 3 balles. Il réussira à traverser le chemin. Il donnera la position de tous les opposants. Les Tzantranim vont prendre les collines, vont libérer ce chemin. Yehuda, blessé, est amené dans un hôpital de campagne, un hôpital de militaire, sur le terrain. Et au bout de quelques semaines, de 2 semaines et demie en fait, il sentira que ses forces l'abandonnent. Il demandera à voir un des rabbanim tzvaim. Il demandera de mettre les tefilin et partira comme ça. Yehuda nous a appris une chose. Yehuda nous a appris qu'au moment où il fallait un chauffeur, il a dit « Moi, je suis chauffeur !» Yehuda m'apprend à moi que si lui était chauffeur et qu'il s'est révélé chauffeur et héros d'Israël à ce moment-là, eh bien, il m'apprend à moi qui ne suis pas chauffeur, qui n'est pas mon permis, mais qui est d'autre chose, eh bien, qu'il est peut-être temps que j'assume mon identité et que je prenne les responsabilités de qui je suis, de quelles sont mes capacités, et de pouvoir les mettre au service du peuple juif. Hana nous a appris ce que c'était la harvout, l'entraide. Yuval et Yuval nous ont appris la fraternité. Yehuda nous a appris qu'est-ce que c'était la responsabilité, la prise de ses responsabilités. Vous savez, quand on parle des héros d'Israël et des combats d'Israël, eh bien, on se pose toujours la question, on dit que nos soldats partent trop tôt. Nos soldats sont tous des jeunes. C'est vrai, nos soldats sont trop jeunes. Ils partent toujours trop jeunes. Quand on voit à Herzl ou ailleurs des soldats qui ont 18 ans et qui tombent au combat, on se dit « mais ils avaient toute la vie devant eux ». Mais que dire de cette photo? Non, non, ce n'est pas Yom HaShoah. Dire de cette photo-là. Les amis, il s'agit du plus jeune soldat d'Israël qui est tombé au combat pour notre pays. Il est jeune sur cette photo, mais c'est la photo la plus récente qu'on a. Il s'appelle Nissim Guini. Nissim Guini est observateur d'élite, voire même tireur d'élite pour les combats de Jérusalem. Nissim a 10 ans. Il est tout petit. Pas seulement parce qu'il a 10 ans. Mon fils a 10 ans, mais il est très grand. Lui, il est tout petit. Il a 10 ans et nous sommes en 1948. Ce sont les combats du Rovin. Les combats de la vieille ville de Jérusalem. Il habite dans la vieille ville de Jérusalem. Et comme il est tout petit, Eh bien, son rôle, parce qu'il veut participer, son rôle, c'est de prendre des jumelles, de grimper sur les toits, une radio à la main, ses jumelles dans l'autre, et de se cacher sur les toits pour pouvoir voir les mouvements de troupes des Jordaniens et donner des informations. Il sera nos yeux les plus jeunes de l'histoire d'Israël dans les combats de Jérusalem. Nissim Guini, 10 ans, nous apprend que toute la réalité du peuple juif repose sur l'avenir. L'avenir, j'en parle devant la photo d'un homme qui a 10 ans, qui avait évidemment tout l'avenir devant lui, mais qui comprend cette réalité que pour assurer l'avenir du peuple juif, eh bien peut-être que mon avenir personnel ne sera pas assuré. Nissim nous apprend, au-delà de la route, de la fraternité, de la responsabilité, Nissim nous a appris ce que c'était que la tikva dans l'avenir. Alors les amis, évidemment, on parle ici de tzadiké olam. On parle de tzadikim et j'aimerais ici vous parler d'un héros d'Israël. D'un héros d'Israël que j'ai eu la chance de fréquenter. Et cette fois, je ne vous ai pas amené une... Je ne vais pas vous mettre une photo dans le dossier. Je vais vous la montrer en vrai. En vrai, une vraie photo. J'aurais pu la photographier. Mais je veux que vous compreniez à quel point ce n'est pas, pour moi, une photo d'ordinateur. Cette photo, elle est juste ici. Cette photo, elle est juste ici. Alors, bon, on se passera des commentaires de savoir si j'ai grossi ou si j'ai pas grossi. Certes, la photo a à peu près 14 ans, Machoukazé. Je suis ici avec un homme extraordinaire. Alors, extraordinaire à bien, bien des égards. D'abord, j'aurais pu vous dire qu'il est extraordinaire parce que, eh bien, c'est un rescapé de Auschwitz, parce qu'il a survécu aux marches de la mort, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à prendre, lorsqu'il est arrivé finalement en Allemagne, lorsque les Américains sont arrivés et qu'il a reçu, comme tant d'autres déportés, les rations de nourriture des soldats alliés qui ont vu ces gens qui mouraient de faim, ils leur ont donné leurs rations et vous savez ce qui s'est passé. Les déportés se sont jetés sur la nourriture, ont commencé à manger et en quelques minutes, ils s'effondraient au sol et mouraient jusqu'à ce qu'un infirmier de l'armée américaine comprenne qu'ils n'ont plus l'estomac capable de manger ces denrées pleines de gras, pleines de choses. Et donc, il leur donne de récupérer, de prendre de la main des déportés cette nourriture qu'on venait de leur donner pour les sauver. Mais lui, il réussit à garder une boîte de... Il dit que c'était une espèce de viande avec du gras. Bon, ça ressemblait certainement à notre louffe qu'on connaissait quand on était à l'armée. Et il dit qu'il s'est autodiscipliné, qu'il faisait comme ça une fois toutes les 6 heures. Et petit à petit, au bout d'une journée, il a fait ça une fois toutes les 5 heures, et ensuite une fois toutes les 4 heures, et il s'est réhabitué. Cet homme monte en Israël après la Shoah, et il vient devenir un des... Alors, pas des bâtisseurs, parce que ça existait déjà, mais un des fiers compagnons combattants de Kfar Etzion. Il monte à Kfar Etzion. Là-bas, il y rencontre sa dulcinée. Sa dulcinée qui, elle aussi, rescapée de la Shoah, elle aussi est arrivée à Kfar Etzion. Ils vont très vite se marier, évidemment, et les combats de Kfar Etzion commencent. Les combats de Kfar Etzion commencent, sa femme, qui est infirmière, a été évacuée avec les enfants à Jérusalem. et lui fait partie des combattants. Comme vous le savez, les combats de Kfar Etzion, eh bien, finalement, Kfar Etzion tombera. Et les 47 derniers combattants devront se rendre. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus rien. Et la légion jordanienne les a submergés. Ils ont tenu. Alors que Ben Gurion leur disait, mais si vous tombez, Jérusalem tombe. Vous êtes la ceinture de sécurité de Jérusalem. Ils ont tenu. Et finalement, les 47 derniers combattants se font capturer par les Jordaniens. Et les Jordaniens leur disent, vous allez tous vous mettre alignés devant un bâtiment là-bas, qui est un grand bâtiment là-bas, et on va vous photographier. Vous êtes maintenant des prisonniers de guerre. Alors évidemment qu'on a un peu peur, mais on se dit, c'est l'armée jordanienne, c'est la légion officielle, c'est pas les barbares de Hebron. Donc ils se disent, on est des prisonniers de guerre maintenant. Mais les Jordaniens décident de renouer avec leurs sentiments barbares et au lieu de les prendre en photo alors qu'ils sont tous alignés, commencent à les fusiller. Dans la mêlée et les cris et le balagan, lui et trois autres, vont survivre. Lui va survivre parce que lorsque les coups de feu commencent, il fait mine de tomber et d'être donc mort. Et dans la cohue, il va ramper jusqu'aux vignes qui sont juste derrière le bâtiment. Il va se tapir sous les vignes jusqu'au coucher du soleil. Et de là, il ira prévenir les autres Yishuvim de ce qui vient de se passer. Cet homme que j'enlace s'appelle Nahum Ben Sira, Goldstein à la base, mais Ben Sira lorsqu'ils sont arrivés en Israël. Et Nahum Ben Sira avec sa femme Pnina Ben Sira, c'était les grands-parents de ma femme. Nahum fait partie d'un des quatre survivants, il est parti aujourd'hui, mais faisait partie d'un des quatre survivants du combat de Kfar Etzion. Nahum et Pnina, quand on leur a demandé ce qui était le plus important dans leur vie, une fois que Kfar Etzion est tombé, eh bien, ils ne sont pas restés en reste. Ils sont partis à côté de Haïfa avec d'autres survivants de Kfar Etzion et des femmes, des enfants, du Gouche, et ils sont partis construire le village de Nir Etzion qui est à côté de Haïfa encore aujourd'hui. Et ils y ont habité, ils y habitent encore, et ses enfants habitent également, sauf la maman de ma femme qui est partie en Angleterre, mais ça, c'est une autre histoire. Nahum Ben Sira, eh bien, son enseignement, quand on lui a demandé c'est quoi le plus important, eh bien, Nahum et Pnina ont dit deux mots. Et comme ils étaient mariés, eh bien, on a dit, bon, ben, ça va ensemble. Pnina a dit, le plus important, c'est Am Israël. Et Nahum a dit, le plus important, c'est Eretz Israël. Et moi, j'en ai déduit que le plus important, c'était Am Israël, Eretz Israël. Mais bon, peut-être que j'ai fait une erreur de compréhension. Mes amis, on parle de ces géants, de ces héros d'Israël. Eh bien, je vous ai parlé ici de Nahum, que j'ai eu la chance d'avoir pour grand-père, presque de ma femme, donc presque moi également. Mais il y a un homme que j'ai rencontré pendant une demi-heure. Et cette rencontre, eh bien, je ne l'oublierai évidemment jamais. Nous sommes en 2009, et comme vous le savez, vous vous en rappelez, en 2009, Hanouka, c'est le moment où va commencer l'opération de plomb durci. Oferet Yetsuka. Je suis déjà en Milouim, j'ai déjà terminé l'armée, après la deuxième guerre du Liban, mais nous sommes rappelés, parce que notre unité, alors que la guerre à Oferet Yetsuka se passe du côté de Gaza, et c'était le terrain de jeu, entre guillemets, évidemment, de notre unité, eh bien, nous sommes rappelés pour être envoyés là-bas. Et à un moment donné, eh bien, dans un briefing, on a appris qu'on devait partir faire une mission X ou Y. Et on a quelques heures devant nous pour nous préparer. Ayant terminé mes préparations, je vais dans une caravane qui servait de Bet Knesset, de la base sur le bord de la frontière. Je rentre dans la caravane, je trouve ce garçon. Ce garçon qui est MP, qui est officier d'unité de Golani. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je suis rentré, j'ai dit « Alan, salut !» Il m'a dit « Alan, beau chef, viens, assis-toi !» Il était en train d'étudier une page du Talmud. Il était en train d'étudier une page du Talmud, la fameuse page. Alors, on parle souvent de la question de « il y a du hasard, il n'y a pas de hasard ». J'ai entendu le Rav Cherki en parler tout à l'heure, de cette fameuse page qui parle de la galoute, de la Géoula, de Rabbin, de Benzoma, de Chachamim, cette page-là. Et il raconte, on est en train d'étudier ensemble pendant, on va se poser pendant une demi-heure, comme ça on va étudier la Gemara ensemble. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et au bout d'une demi-heure, sa montre sonne, il doit partir. Il se lève, et avec le même sourire que vous voyez ici sur la photo, il me tend la main, il me dit « Dagan ». Je lui serre la main, je lui dis « Etan ». Et il me dit « Batsluche ». Ça veut dire « Bonne chance ». Et je lui dis « Batsluche ». Et chacun de son côté, on part, lui avec ses hommes et moi avec les miens. Deux jours plus tard, moi je vais rentrer de ma mission et Dagan ne rentrera pas. Dagan fait partie, Dagan Moshe Vartman fait partie des 10 hommes qui sont tombés dans Oferet Yitzhuka. Et je crois que j'ai été peut-être un des derniers qui n'étaient pas ces hommes à lui avoir parlé avant qu'il parte en opération. J'ai eu la chance de pouvoir être démobilisé 6 jours plus tard. Donc, j'ai pu aller le dernier jour de la Shiva. J'étais à la Shiva et là-bas, il y avait le Mahat de Golani, le commandant de tout Golani. Je voulais en apprendre un peu plus sur cet homme qui m'avait serré la main avec ce grand sourire. Et ce que j'ai appris là-bas était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Dagan avait fait une combine, une magouille avec la responsable logistique de son unité pour apprendre le nom et l'adresse de tous les soldats qui étaient sous son commandement. Il était MP, donc il avait entre 90 et 100 hommes sous son commandement qui étaient sous le seuil de pauvreté. Et il redistribuait la moitié de son salaire d'officier dans les différentes familles de ces soldats qui étaient sous le seuil de pauvreté. Dagan, le Mahat de Gil de Golani, nous raconte ça et nous dit on ne savait pas que la guerre allait commencer, mais juste avant la guerre, on a découvert ce qu'il faisait. Et on a été sur le point de lui faire un mishpat, de lui faire une cour martiale. Parce que ce qu'il faisait, c'est interdit. C'est du vol. C'est le vol de l'armée. L'armée l'a payé lui. C'est son salaire. Il n'a pas le droit de bidouiller les ordinateurs. Mais il a dit, dans le même temps où on voulait lui faire une cour martiale, c'était pour lui remettre une médaille. Il l'aura reçue, cette médaille, finalement. Dagan nous a appris une chose toute simple. Après la dimension de Kol Israël arevim zebazé de Chana Senech, de Achvat Israël, de la fraternité de Yuval et Yuval Arel, après avoir compris la responsabilité de qui je suis de Yehuda Kendro et l'espoir dans l'avenir du peuple juif de Nissim Guini, j'ai appris de Dagan Moshe Vartman que finalement, toutes ces grandes théories, toutes ces grands idéaux qui sont bien mettre grands, pour pouvoir les mettre en pratique dans ce que Nahum et Pnina Ben Sira nous ont appris dans Am Israël, Beretz Israël, Dagan nous a appris qu'il fallait les mettre en pratique dans les petites choses du quotidien et que le plus grand soldat d'Israël, c'était celui qui enlevait aussi des fois son uniforme et qui restait un grand bonhomme. Et enfin, le dernier personnage que j'aimerais évoquer avec vous, j'aimerais évoquer le personnage extraordinaire. Comment vous dire ? Il y a un homme, mais je vais vous le montrer maintenant. Il y a un homme qui est un symbole et toute une histoire. Une semaine après la fin de la guerre en 2014, Tsouk Eitan, nous revenons à la vie normale après la guerre. Et ma vie normale à moi, en été, quand il n'y a pas Monsieur Corona, eh bien, c'est de guider des groupes. Et en été, particulièrement des groupes de taglit. Dans les groupes de taglit, il y a des passages obligés. À Herzl, c'est un des passages obligés. Lorsque nous arrivons au Mont Herzl, je vais faire un circuit pour essayer de transmettre ces valeurs-là à mon groupe. Et je vais sur la tombe de Dagan Moshe Varkman, dont je viens vous parler. Mais je vois qu'il y a de nouvelles tombes, puisqu'il y a une semaine vient de se terminer la guerre de Tsouk Eitan. Et parmi ces nouvelles tombes, il y en a une qui est encore, j'ai envie de dire, fraîche. Elle n'est même pas recouverte de la pierre tombale mamache. C'est celle de ce soldat. Mais tout le monde est choqué. Personne n'arrive à en placer une. Tout le monde était encore sous le choc de la guerre de Tsouk Eitan. Donc j'ai envie de dire que mon groupe, lorsqu'il a vu cette tombe toute nouvelle, on n'a rien dit. Tout le monde était en larmes, mais on ne savait pas pourquoi on était en larmes. Mais quelques mois plus tard, au mois de décembre, il y a un nouveau groupe de taglit qui est arrivé. Et donc, on est revenu au Mont Herzl et je les ai réamenés sur la tombe de Dagan Moshe Varkman pour raconter son histoire. Mais cette fois, la tombe de ce soldat, ça y est, elle avait été, c'est bon, c'était officiel. On était il y a 4 mois dans la guerre, donc les gens connaissaient, se rappelaient, c'était vivant, c'était frais, mais ce n'était pas non plus le choc de l'instant. Et je suis avec mon groupe, je les mets en arc de cercle devant la tombe de Max, qui s'appelle Max Donald Steinberg. Et j'ai même pas besoin de parler que tout le monde est en larmes, mais pas les mêmes larmes que le groupe d'avant. Tout le monde est en larmes parce que, au-delà de la photo du soldat qui est exposé sur la tombe, il voit autre chose. Sur la tombe, il voit des dizaines de ça. Alors, c'est quoi ça en question ? Eh bien, il voit des dizaines de ces petits objets. Ces petits objets, ce sont des petits bracelets où il y a marqué Taglit, qui sont distribués à chaque participant de chaque groupe Taglit. Et il voit des dizaines de ces petits bracelets qui sont déposés sur la tombe de Max. Et ils se regardent tous le poignet parce qu'ils ont les mêmes bracelets. Et ils ne comprennent pas. Et je leur explique que Max est un juif américain assez éloigné de la communauté qui entend parler de Taglit, voyage tout frais payé, 10 jours en Israël, excusez-moi de l'expression, mais il y aura de la meuf. Donc, pourquoi ne pas y aller ? Allez ! Et il part en Israël faire Taglit. C'est sa première fois en Israël. Lui qui vient de Californie, le surfeur, le mec, il savait qu'il était juif, mais bon, nounou. Il n'avait jamais eu vraiment d'amis juifs, quoi que ce soit. Et ce voyage de Taglit le met face à une réalité incroyable. Tout d'un coup, il découvre le peuple juif, il découvre Israël, il découvre son histoire. Il est transformé. Il est transformé. Et à la fin du voyage, il prend la décision, il monte en Israël, c'est terminé. Il retourne aux États-Unis, boucler toutes ses affaires, il a 22 ans, boum, il arrive en Israël. Et là, pour lui, les choses sont claires. Non seulement il monte en Israël, mais ça sera l'armée directe. Bon, en plus, c'est un Américain, donc il se prend déjà pour Rambo, tout va bien. Et puis en plus, il avait le physique pour. Et donc, il rentre dans l'unité de Golani. Il rentre dans l'unité de Golani, Tsouk Eitan et Max, juste avant la guerre, il y avait la fête de Pessah. Comme il était Chayal Boded, soldat seul, comme il y avait, c'est un Chayal Boded, soldat seul, eh bien, il a été invité, comme tous les ans, il y a une soirée qui est organisée par le Ramatkal pour les soldats seuls. Et là-bas, il est interviewé. Et on lui demande, mais qu'est-ce que tu voudras faire après l'armée? Et il répond, mais c'est très simple. Après l'armée, je vais faire Madrich à Taglit. Je vais faire guide à Taglit. Parce que je sais ce que le guide de Taglit m'a donné et je vais redonner pareil. En juillet, ce sera Tsouk Eitan et Max tombera. Mon groupe est évidemment terriblement heurté. Et quelques jours plus tard, c'est la fin de mon groupe. Et je réunis dans une salle et on commence à discuter ensemble de quel a été le moment le plus fort du voyage. Et l'un d'entre eux prend la parole et dit que pour lui, le moment le plus fort du voyage, eh bien, c'était évidemment, sans conteste, la tombe de Max. Et il nous raconte à tous qu'il a toujours rêvé de venir en Israël, mais il avait peur. Et il voulait, mais il ne savait pas, mais qu'après ce voyage de Taglit, et après le choix de Max, il a dit, ça y est, j'ai décidé, je pars. Quelques heures plus tard, on est à l'aéroport, et j'accompagne le groupe jusqu'au moment de la douane, et là, je ne peux plus passer avec eux. Et je ne sais pas, une demi-heure, juste avant de monter dans l'avion, je reçois un WhatsApp de ce garçon qui m'envoie un long message. D'abord pour me remercier, nanana, super voyage, nanana. Et il m'explique à quel point, toute sa vie, ses yeux étaient pointés sur Israël, mais il était retenu par la peur, par l'angoisse, par le peut-être que oui, peut-être que non. Et que finalement, eh bien, ce voyage lui aura ouvert les yeux. Qu'il était maintenant toujours fier d'être membre du peuple juif, mais qu'aujourd'hui, il décidera, grâce à Max, eh bien, pas seulement d'en faire partie de manière passive, mais d'être un acteur du clan Israël. Et il termine son message en hébreu en me disant « Toda rabba achi, merci mon frère, venitrae bekarov birushalayim. » Et on se reverra très vite à Jérusalem. Le problème, c'est qu'il avait raison. Mais il ne savait pas à quel point il avait raison. Une semaine après être rentré de Taglit, eh bien, Yoav Khatab sera une des victimes de l'hypercacher. Et celui que vous voyez ici. Les amis, toutes ces personnes que je viens d'évoquer nous tracent un chemin. Yom Hazikaron Lechayalei Israël, c'est Yom Hilula L'Ekdoshé Israël, ce jour qui nous a permis, eh bien, d'avoir un chemin, de comprendre comment préparer, construire et vivre l'avenir du clan Israël. Je terminerai par ce texte extraordinaire. Alors voilà, je ne sais pas si on le voit ici, alors deux secondes, je voudrais que vous voyez tous également, voilà, hop là, là vous voyez.
Non.
Ce texte, eh bien, se trouve dans le livre Roth, dans la deuxième partie qui s'appelle Amilchama, dans le deuxième paragraphe. Le Rav Kook n'a pas entendu ce que j'ai dit aujourd'hui, mais savait déjà nous expliquer quelle était la particularité des soldats d'Israël. Qui sont les soldats d'Israël? Dit le Rav, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. Lorsque nous regardons ceux qui nous ont précédés, ces gens extraordinaires qui étaient dans la Torah, dans les Neviim, dans les Ketuvim, en fait, les héros du Tanakh. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. comprenez-moi bien, pendant 2000 ans d'exil, le peuple juif ne faisait pas la guerre. Les héros de guerre d'Israël, on les retrouve dans le Tanakh. Nous dit le Rav Kook, quand on regarde ces gens-là, ces gens qui étaient dans le Tanakh, qui étaient à Sukim Mamilchama, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. Ces gens-là, qui sont les héros d'Israël, les héros des guerres d'Israël, on les regarde avec des yeux pleins de tendresse et Gdoulat Kodesh. Le Rav Kook nous dit, Anu mevinim, inenu mevinim, shazik anishmati ou ayesod. Nous comprenons que pour créer des gens comme ça, la neshama, c'est la base. Oto ma'amad ha'olam, she'alar bemerutzato, à l'époque, nous dit le Rav Kook, à l'époque du Tanakh, la guerre, elle était présente partout. Vous savez, c'est pas très compliqué de se donner 100% à la Torah. Pas très compliqué de se donner 100% au business. Nous dit le Rav Kook, les gens qui sont capables d'être lochamim vekdoshim, ça, c'est pas donné à tout le monde. Soldat d'Israël, c'est, j'allais dire, un métier. Non, c'est une neshama. Ou garam leofia et ele aneshamot, parce qu'il y avait une époque extraordinaire, il a fallu des neshamot extraordinaires. Shargashatam apenimit betocham shalem aita. Ces gens qui sont capables de faire les guerres d'Israël sont mêlés shlemut. Ils sont pleins de plénitude. Milchemet kiyumam, kiyuma umma, milchemet Hashem aita, be'akara pnimit. David Amelech, Gidon, tous nos soldats à l'époque et aujourd'hui. Hazizim hayu berucham. Ce sont ces soldats qui, même au plus profond de la nuit, ont fait le bien, ont fait les guerres d'Akadosh Baruch Hu. On dit Gam Kieler Begeit Salmavet Loirara Kiata Imadi. Kshanu mitbonenim aleim, quand on regarde ce qu'ils nous ont légué, que ce soit David, que ce soit Gidon, que ce soit les autres, ou que ce soit les différents personnages que j'ai évoqués aujourd'hui. Dans notre évolution personnelle et dans notre rapprochement de Dieu que nous essayons tellement de faire avancer, on a envie d'apprendre d'eux, de faire notre leur qualité. Nous apprenons de toutes les dimensions que nous avons évoquées aujourd'hui. Umitor tshukazo, kochenu aruchani mitametz vekoach gevuratenu mitaden. Et grâce à ce que nous avons appris d'eux, notre force spirituelle grandit. C'est grâce aux soldats d'Israël que dans les yeshivot on étudie mieux. Rabotai, c'est pas l'inverse. On a tendance à dire dans les yeshivot on fait des tehillim mais ça permet d'aider les soldats d'Israël de réussir sur le terrain. Peut-être que c'est vrai, c'est certainement vrai d'ailleurs. Mais il ne faudrait pas oublier la réciproque. C'est parce qu'il y a des soldats d'Israël qui sont capables d'être soldats d'Israël, eh bien que ceux qui étudient la Torah ont une Torah qui est plus forte. Nous dit le Rav Kook, et ces neshamot extraordinaires qui étaient les neshamot du Tanakh, ces combattants d'Israël qui sont en même temps, je vous rappelle que David Ameler, c'est 18 guerres, mais c'est également Neim Zemirot Israël, Baal HaTehilim. Il vient de dire le Rav Kook, ces Neshamot qui étaient les Neshamot extraordinaires de nos combattants du Tanakh, eh bien ce sont ces Neshamot que nous retrouvons chez nos soldats au quotidien qui nous permettent de dévoiler la grandeur de notre identité. Sheyeh Zichram Baruch. Et que leur souvenir ne soit pas simplement une fenêtre sur le passé, mais le moyen de construire notre avenir. Toda rabba, les koulam.